Mesdames et messieurs, nous allons commencer pour 60 minutes avec notre ami Éric Bédonnel. Nous avons le grand plaisir de t'accueillir, Éric, pour la première fois dans le cadre des imaginales maçonniques et ésotériques à Épinal. Donc je vais te présenter très très rapidement. Ensuite, tu auras un moment pour traiter le sujet que tu as accepté sur l'utilité des rites maçonniques et non pas sur l'utilité de la maçonnerie. Et puis ensuite, vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez poser à Éric par rapport à son livre franc-maçon qui est sorti l'année dernière et où il témoigne de son expérience de maçon. Ce livre, 59 chapitres, très, très court, chaque chapitre, décrit bien sûr toute la vie de maçon et la réflexion de maçon d'Éric, aussi bien pour des initiés que pour des profanes. Donc j'en viens à Éric. Alors Éric est né à Épinal en 1971. Il a des attaches à Gérardmer et il vit à Paris depuis l'époque de Sciences Po Paris et il est diplômé de cette grande école. Il est aussi titulaire d'un master 2 de sciences sociales de l'école des hautes études en sciences sociales et de l'école normale supérieure. C'est aussi un ancien élève de l'école nationale supérieure de sécurité sociale qui forme les dirigeants des organismes de sécurité sociale. Il a travaillé auprès de deux ministres à Bercy, tout d'abord Christian Pierret à l'industrie, puis Laurent Fabius à l'économie et aux finances. Il a exercé des responsabilités à la Caisse nationale de l'assurance maladie et à la mutualité française. Il a dirigé l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Il est un spécialiste des questions de protection sociale et plus spécialement dans le domaine de la santé. Il est l'auteur de 3 livres, publiés les 3 aux éditions Le Bord de l'eau dans la collection Clair et Net, qui est dirigé par Antoine Spire, que vous connaissez sûrement. Le premier, Alors que la mémoire s'efface, 2019, c'est l'histoire de sa maman, atteinte de la maladie d'Alzheimer. C'est le livre, à mon avis, avec la plus grande transmission d'émotion, et c'est la force d'Éric, en tant qu'écrivain, qui a su transmettre toute son émotion, les relations à sa maman et sa maladie d'Alzheimer. Et pour ceux qui ont déjà lu ce livre ou qui le liront, il raconte ses années d'enfance à Épinal. Et puis le deuxième, en 2021, c'est Le courage des miens. C'est la famille paternelle sur plusieurs générations, avec bien sûr son papa, mais aussi les autres ancêtres, qui, chacun à son époque, a été confronté à des voyages initiés à chaque fois par des conflits en Europe. Et puis le dernier qui va nous occuper, qui est sorti l'année dernière, franc-maçon, point d'exclamation, qu'Éric va nous présenter au travers de la question posée. Alors, il est bien sûr un membre actif du Grand Orient de France depuis bientôt 28 ans. Il a dirigé des ateliers à Paris, en particulier la respectable loge Aletheia, à l'Orient de Paris 1, 2006-2007 et 2016-2008, dont il est vénérable maître d'honneur aujourd'hui. Cette loge a été fondée par le regretté Christophe Abbas, Et dans Franc-maçon, c'est un des derniers écrits de Christophe Abbas, il préface le livre de son ami Éric. Avant de donner la parole à Éric, pour ouvrir un peu le sujet, je vais simplement vous donner quelques citations de Christophe Abbas sur les rites. Au fil du temps, la franc-maçonnerie emprunta à de nombreuses traditions religieuses opératives, écossaises ou anglaises, voire spiritualistes, pour façonner ses mythes, ses règlements, ses rites. Et puis il dit aussi dans la préface du livre d'Éric, la franc-maçonnerie offre donc un espace de sociabilité, d'édification morale, encadré par des rites qui dramatisent et esthétisent des valeurs dont Éric va nous parler. Voilà, je m'arrête là. Merci d'être là. Merci à Éric de nous présenter son travail sur l'utilité des rites pour franc-maçonnerie.
Merci
Tu as la
François
parole.
Vernier. Mesdames et messieurs, merci de votre présence ici aujourd'hui. Carl Gustav Jung a défini la notion de synchronicité comme le lien fait par l'esprit entre deux événements qui n'ont pourtant aucun rapport de nécessité entre eux. Je m'exprime devant vous ce soir, jour pour jour, presque heure pour heure, après la mort de mon frère et ami Christophe Abbas, qui avait accepté de préfacer le livre à propos duquel je viens m'exprimer devant vous. Christophe Abbas a été l'une des très belles rencontres que j'ai faites dès le premier jour de mon entrée en franc-maçonnerie. Il a été par ailleurs un grand maître du Grand Orient de France aux qualités intellectuelles et morales unanimement appréciées. Évidemment, j'ai ce soir, en commençant à m'exprimer devant vous, une pensée particulière pour lui. Alors, Jacques Orifice m'a suggéré de, et je l'ai accepté bien volontiers, de m'exprimer pour vous parler de l'utilité des rites maçonniques. Alors, utilité, rite, maçonnique, ça me fait déjà au moins trois termes complexes à analyser, donc j'essaierai de le faire. Et je le ferai, on est bien le nombre de trois en franc-maçonnerie, en consacrant trois temps à mon exposé. Un premier temps pour contester l'usage de la notion d'utilité. Un deuxième temps pour essayer de vous exposer en termes très simples ce qu'est la franc-maçonnerie et la place qui tiennent les rites. Et puis un troisième temps pour vous expliquer non pas quelle est l'utilité des rites, puisque je conteste la notion d'utilité, mais quelle est leur fonction dans cette forme de sociabilisation que nous créons et maintenons ensemble, et en quoi cette fonction peut être utile au-delà de ce qui se passe entre nous dans la compréhension et peut-être la résolution de la crise du politique dans les démocraties libérales. Je fais en sorte de ne pas être trop long pour que nous ayons un temps d'échange et pour pouvoir répondre à vos questions. Premier temps donc sur la contestation de la notion d'utilité. Le philosophe Jérémy Bentham a défini une théorie qu'on appelle l'utilitarisme, qui consiste à envisager la rationalité des comportements des individus dans la société au regard de l'utilité que leur procurent leurs actions, l'utilité étant comprise comme la capacité à augmenter la part de plaisir et à réduire la part de peine. Alors, peut-être que je vais décourager un grand nombre de vocations pour des profanes qui voudraient rejoindre la franc-maçonnerie, mais procurer du plaisir n'est pas la vocation première d'une loge maçonnique. Mais rassurez-vous, pour autant, son objectif n'est pas de procurer du déplaisir. Dans l'ère du vide, Gilles Lipovetsky explique que nous sommes sortis de l'ère moderne pour entrer dans l'ère postmoderne. La modernité se définit comme une période historique qui va de la découverte des Amériques à la Révolution française, la prise de la Bastille, mais plus qu'une période historique, c'est un mouvement intellectuel marqué par la volonté des philosophes et des chercheurs et scientifiques, par une approche rationnelle de donner à comprendre le monde à travers un discours fondé en raison qui supporte l'examen des faits et qui a une vocation à donner une compréhension universelle, partagée par tous, des événements et qui puisse être réfutable, améliorable par des échanges ou par des recherches ultérieures. Voilà ce qu'est la modernité. La modernité se fonde donc sur l'action de sujets qui raisonnent et qui agissent de point de vue de leur raison. Ça, c'est la modernité. La postmodernité, c'est un peu autre chose. C'est plutôt le fait que des individus cherchent à maximiser leur satisfaction personnelle et leur plaisir personnel. Et le glissement de la première notion, la modernité, l'usage de la raison avec des sujets citoyens, à la deuxième notion qui est celle de la postmodernité avec des individus dont la priorité est d'abord de maximiser leur satisfaction individuelle, cela a pour effet évidemment de réduire la place du politique, d'accroître les revendications individuelles par rapport au collectif, et c'est de nature évidemment à distendre les relations qui font une vie en société et sont donc un facteur de crise à prendre en considération. La contestation de la notion d'utilité, comme philosophie fondée par Jeremy Bentham au XVIIIe siècle, dans les conséquences qu'elle peut avoir dans le développement de comportements postmodernes aujourd'hui, n'est donc pas une simple figure de style, mais c'est un élément extrêmement important. La franc-maçonnerie reste un lieu de sociabilité qui s'inscrit dans la modernité, c'est-à-dire qui valorise la raison, qui permet avec pudeur l'expression dans nos échanges d'émotions, mais dans la mesure où cela vient à l'appui d'une démonstration rationnelle. Et c'est quelque chose pour nous d'extrêmement important que de remettre en avant cet effort de la raison à un moment où l'émotion est très vite la vindicte, l'emporte bien souvent dans les échanges collectifs, notamment sur les réseaux sociaux ou dans les chaînes d'information en continu. Donc de ce point de vue-là, premier temps de mon exposé, il n'est pas question d'utilité en franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'a pas à servir à quelque chose. Et sa fonction est tout autre. Et je vais y venir. Et c'est la question donc pertinente est moins celle de l'utilité que de la fonction des rituels ou de la fonction de la franc-maçonnerie au service d'un certain mode de sociabilité. Deuxième temps de l'exposé, qu'est-ce que la franc-maçonnerie et quelle est la part des rites dans ce qui constitue la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie, c'est historiquement un mode de sociabilité qui apparaît parmi d'autres au XVIIe siècle, et c'est-à-dire dans la période que j'ai évoquée tout à l'heure, qui est la période de l'ère moderne, et le philosophe allemand Jürgen Habermas analyse tout un tas d'autres modes de sociabilité qui apparaissent à la même époque, les cafés, les salons, les académies, les journaux, enfin, tout un tas de lieux où des citoyens divers prennent l'habitude de se rencontrer et d'échanger sur tout et sur rien, et notamment sur la vie de la société. Donc ça, c'est l'un des premiers éléments importants, effectivement, du cadre historique et philosophique dans lequel se crée la franc-maçonnerie, la modernité. Le deuxième élément important à avoir en tête, c'est que la franc-maçonnerie se crée à la fin des guerres de religion, à un moment où il est important pour des gens qui ont envie de remener une vie normale et stimulante, de pouvoir se rencontrer, quelles que soient les opinions religieuses des uns et des autres. Et donc, la franc-maçonnerie est une invention de sortie de guerre civile européenne qui permettait à l'époque à des protestants et à des catholiques de pouvoir se rencontrer sans se taper dessus et sans se faire taper dessus par d'autres protestants ou catholiques qui n'étaient pas maçons. Et de ce point de vue-là, dès sa création, la franc-maçonnerie est une invention sociale qui vise à réguler le rapport à la violence. Alors chez Aristote, dans la physique d'Aristote, la violence se définit comme ce qui s'oppose au mouvement spontané d'un être. La main qui attrape une balle au vol est une violence exercée sur cette balle. Mais la violence n'est pas que physique, elle peut être métaphorique. L'effort de conviction qui conduit à réfuter une argumentation, ou l'exercice démocratique qui vise à permettre à la majorité d'imposer ses vues à la minorité, sont d'autres formes de violence, non plus de violence physique, mais de violence plus métaphorique. Et le but de la politique comme action, c'est finalement de faire en sorte que dans la société, la place de la violence physique soit la plus faible possible, pour que la place d'une violence plus métaphorique, fondée sur l'exercice notamment de la raison, soit la plus grande possible. Et donc, voilà historiquement ce qu'est la franc-maçonnerie, une création de l'époque moderne, qui apparaît à la fin des guerres de religion, pour permettre à des protestants et des catholiques de discuter ensemble en paix, dans un lieu et un moment de répit, sans avoir rien à craindre, avec une réflexion particulière dans ce contexte de sortie de guerre civile sur la régulation de la violence qui est fondée sur un certain nombre de choses, mais notamment sur la volonté de pouvoir échanger en rationalité sans se référer à des autorités qui s'imposeraient d'elles-mêmes, qu'elles soient d'ordre politique ou d'ordre spirituel. Alors la franc-maçonnerie, dans ce cadre-là, c'est trois éléments. Ce sont d'abord des idéaux. Les idéaux de la franc-maçonnerie, en France, ce sont les idéaux de la République. Des idéaux qui se fondent sur une démarche d'émancipation individuelle dans un cadre collectif. Et avec le buste de Marianne qui est souvent représenté dans les loges, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité qui est représentée dans les loges, et puis la laïcité qui est un élément très important parce que précisément c'est ce qui permet à des protestants et à des catholiques à l'époque de pouvoir échanger en paix. Pour quelqu'un qui décide de devenir franc-maçon, quelle que soit l'obédience en France, la découverte des idéaux maçonniques ne doit pas être l'occasion d'une grande surprise. Le deuxième élément constitutif de la franc-maçonnerie, c'est une méthode de travail. Et le troisième élément, c'est un fonds culturel. Cette méthode de travail, elle est dite progressive. C'est cette notion de progressivité qui se traduit dans ce que vous avez peut-être entendu qualifier par nous de grade. C'est-à-dire, quelqu'un qui nous rejoint est amené à découvrir progressivement les éléments de notre méthode de travail, de notre organisation et de notre fonds culturel, à l'occasion de petites cérémonies qui sont organisées, et qui sont organisées autour de rites, je vais définir cette notion, et à l'occasion de ces rites, les personnes qui nous rejoignent, ou qui progressent parmi nous, sont comme les acteurs d'une petite scène qui se joue, à l'occasion de laquelle des gestes sont effectués, des objets sont manipulés, des paroles sont prononcées, qui se réfèrent à un certain nombre de notions sur le devoir, la justice, le travail, un certain nombre de notions qui sont approfondies, et puis qui aussi mobilise tout un tas d'éléments de différentes cultures du monde occidental ou moyen-oriental. Je vais y revenir plus précisément en détaillant le fond culturel dans quelques instants. Et c'est ce dévoilement progressif de cette méthode de travail, de l'organisation de nos travaux, et puis du travail sur différentes notions philosophiques, et également l'exploration d'un certain nombre de références des philosophies ou des sagesses occidentales ou moyen-orientales, qui conduit les francs-maçons à développer petit à petit une connaissance plus complète, plus complexe, de ce qui fait le corpus de la franc-maçonnerie. Troisième, donc ça c'est la méthode de travail. Cette méthode de travail, fondamentalement, mais je vais y revenir, elle est faite, au-delà des cérémonies d'initiation qui visent à transmettre progressivement des éléments de connaissance et de réflexion à nos membres, elle est faite fondamentalement de techniques de conduite de réunion ou de prise de parole qui visent à faire en sorte que nos membres s'écoutent un peu mieux et échangent avec une meilleure qualité que ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Quelques exemples, quelqu'un qui nous rejoint dans les premiers temps est appelé à ne pas prendre la parole dans nos réunions, en tout cas dans nos réunions formelles, non pas pour le censurer, mais pour l'inviter à faire un effort d'écoute. On a tous eu l'occasion, dans nos engagements associatifs autres ou dans le monde professionnel, de mesurer à quel point cette méthode pourrait être utile que dans d'autres environnements que l'environnement maçonnique. Autre chose, dans nos techniques de travail, nous ne nous adressons pas dans nos réunions directement à un interlocuteur pour contester son argumentation. On demande la prise de parole, elle est attribuée par le président de séance, et c'est au président de séance qu'on s'adresse pour pouvoir apporter un autre éclairage sur la question. Cette intermédiation par le président de séance a pour objectif d'éviter les querelles d'égo entre les différents intervenants et à faire en sorte que le débat se fonde moins sur des considérations interpersonnelles et porte davantage sur le fond. Voilà fondamentalement en quoi consistent certains des éléments de nos techniques de conduite de réunion et de prise de parole. J'en viens au troisième élément constitutif de la franc-maçonnerie, le fond culturel. Je vous ai expliqué que le rite était ce rite de passage, c'est-à-dire la mise en scène dont certains de nos membres, dans leur progression, sont des acteurs et qui vise à leur faire connaître de nouvelles notions philosophiques sur lesquelles travailler et également un certain nombre de références culturelles à étudier. Ces références culturelles, fondamentalement, elles sont le grand fond de la culture occidentale, différentes philosophies grecques, néoplaténiciennes, pythagoriciennes, des sagesses ancestrales comme la pensée hermétique, la tradition chimique, des légendes vétérotestamentaires, des légendes néo-testamentaire à un certain niveau aussi, les philosophies morales de la Renaissance, la philosophie des Lumières, la tradition kantienne, le positivisme, etc. etc. Et plus un franc-maçon avance dans ses apprentissages progressifs, plus le travail intellectuel qui lui est proposé et devient complexe, puisqu'il est amené, dans un certain nombre de ses exposés, à travailler sur les cérémonies d'initiation auxquelles il a participé, pour s'interroger sur les notions philosophiques qui étaient mises en avant, et ou sur tel ou tel élément des références culturelles qui étaient mobilisées dans les rituels, pour donner la compréhension qu'il a eue des scènes auxquelles il a vécu. Et donc, plus on avance en grade, plus on est amené à réaliser ce travail-là en se référant à la logique interne du grade auquel on travaille, mais aussi à la logique des grades qui ont immédiatement précédé. Et donc, c'est un jeu intellectuel qui devient de plus en plus complexe, plus on avance, et qui est d'autant plus fécond qu'il est réalisé avec sérieux. Voilà pour le deuxième temps de cet exposé. Donc la franc-maçonnerie, pour résumer, c'est des idéaux émancipateurs, ceux de la République. C'est une méthode de travail qui est progressive, qui est scandée par des rites, c'est-à-dire des cérémonies mettant en scène certains de nos membres au moment où ils accroissent leurs apprentissages, qui mobilisent des gestes, des paroles, des objets, et qui ont pour effet de créer un effet de rupture avec le monde de tous les jours pour avoir une meilleure qualité d'écoute, une meilleure qualité de l'expression et une régulation de la violence dans les échanges qui soit mieux assurée. Et enfin, la franc-maçonnerie comme fond culturel, c'est des traditions du monde occidental, parfois des sagesses orientales, qui sont présentées là comme étant des sujets à approfondir pour sa culture personnelle dans un second temps. J'en viens au troisième temps et à la conclusion de cet exposé. Quelle est finalement la fonction de ces rites au sein d'une obédience maçonnique? Je l'ai dit, le rite marque une rupture entre ceux qui ont vécu l'initiation et ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Et cette rupture qui est rappelée dans la mise en forme de chacune de nos réunions, au début de ces réunions formelles, vise à permettre que la qualité de l'écoute et des échanges entre nous soit plus forte et plus riche que ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Il me semble que la grande fonction du rite, c'est cela, c'est marquer une rupture avec la trivialité de notre vie de tous les jours pour essayer d'être un peu meilleur entre nous et dans l'objectif d'être un peu meilleur soi-même, mais aussi dans la relation à l'autre, de tirer davantage bénéfice de la rencontre avec l'autre. Voilà, me semble-t-il, la grande fonction du rite expliqué en termes non symboliques. Mais cette fonction peut être d'une grande utilité par ailleurs, d'une manière plus générale. Il m'est arrivé, moi, très souvent, dans un cadre professionnel, de reconnaître dans des partenaires de travail des francs-maçons dont je ne connaissais pas la qualité de francs-maçons, à leur qualité de comportement dans un travail qui consistait beaucoup dans la participation à des réunions. Et l'objet du franc-maçon, dans le travail qu'il réalise en loge, c'est précisément d'acquérir une capacité à avoir d'autres formes de savoir-être qui puissent être utiles à la société dans ses autres engagements sociaux, dans sa famille, avec auprès de ses amis, dans ses engagements associatifs, éventuellement citoyens, dans sa vie professionnelle. Et il me semble que la fonction des rites en franc-maçonnerie, au-delà du fait que cela doit permettre de créer un lieu privilégié d'échange entre francs-maçons, c'est aussi et surtout le fait que cet apprentissage d'un niveau d'exigence supérieur dans la relation à soi-même et avec l'autre doit être de nature à permettre à nos membres d'être dans la société, quelles que soient leurs opinions au fond, pour le reste, ou à peu près quelles que soient leurs opinions, parce qu'il y a quand même un parti pris de tolérance et de bienveillance qui est nécessaire pour être des nôtres, mais que ce soit un élément qui permette à chacun, dans la société, après, d'être un pacificateur, quelqu'un qui cherche des solutions, quelqu'un qui permette à ceux qui ont moins la capacité de s'exprimer, de faire entendre leur voix, et qui soit de même de nature à améliorer la cohésion dans la société et partant la préservation de la République. Voilà ce que je voulais vous dire très très rapidement sur le sujet, donc moins d'utilité que simplement une fonction. Une franc-maçonnerie qui a une triple nature, des idéaux, une méthode de travail particulière qui est intéressante et un fond culturel qui, pour qui veut l'approfondir, en approfondir l'étude, est particulièrement stimulant. Et enfin, une fonction de ces rites qui vise à favoriser les vraies rencontres, à pacifier les conflits, à rentrer dans le sujet qui est énoncé par les autres, plutôt que à tout de suite contester l'intervention de personnalité. Voilà, me semble-t-il, ce qui fait la richesse de cette démarche et qui peut, dans une période de grande confusion morale et politique aujourd'hui, avoir une petite utilité, mais une utilité certaine, dans la compréhension et peut-être la résolution de la crise du politique dans nos démocraties libérales.
Merci Eric. Le temps est venu des questions, des réflexions. Donc s'il y a tout de suite une question, une réflexion, sinon j'en ai quelques-unes de prêtes pour amorcer le débat avec Eric. Alors, en attendant que vous prépariez un peu, la question que je voulais te poser, Eric, c'est, après tout ce que tu as dit, pourquoi la franc-maçonnerie est critiquée? Pourquoi, à des moments, les rites dont tu nous as parlé sont jugés parfois obsolètes, saugrenus, et tu l'expliques bien dans ton livre. Et l'arrière-fond de ma question, c'est aussi, on comprend que tu fais œuvre d'explication pour casser d'une certaine façon tout ce qu'on pourrait appeler le complotisme, le conspirationnisme envers les maçons ou des sociétés, des groupes de ce type. Voilà le début de ma question. Après, j'ai un petit tiroir en plus après.
Alors, peu de temps après sa création, la franc-maçonnerie est très vite contestée, notamment par la hiérarchie de l'Église catholique et notamment par le Vatican. Alors, il y a une bulle d'excommunication qui est prononcée par le pape au XVIIIe siècle. Elle n'est pas transcrite en droit français, parce que pour qu'une bulle papale soit applicable au territoire français, il fallait l'accord du Parlement de Paris qui s'y est opposé. Donc les francs-maçons français n'ont jamais été excommuniés. C'est un grand soulagement pour beaucoup d'entre nous. Et pourquoi le pape décide-t-il à l'époque d'excommunier les francs-maçons? Parce que c'était un problème pour l'Église catholique, en tout cas pour le Vatican. Ce qui était en cause à l'époque, ce n'était pas le rapport à la religion, parce que à l'époque, pour être franc-maçon, il fallait croire en Dieu. Le fait que, dans certaines obédiences, dans le Grand Orient de France où je suis, on puisse choisir de croire, de ne pas croire, ou de ne pas trop savoir ce qu'il faut croire, c'est une innovation de la fin du XIXe siècle seulement. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de question sur le caractère irreligieux ou anticlérical des loges maçonniques. Mais, bon, c'était des assemblées de catholiques et de protestants qui se rencontraient sans contrôle de la hiérarchie catholique et en plus qui parlaient aussi de choses concernant l'évolution de la société et qui étaient composées en très grande partie de prêtres catholiques. Donc le gros problème du Vatican à ce moment-là, c'était pas l'anticléricalisme ou le côté très irreligieux des francs-maçons, notamment français, c'était leur gallicanisme, c'est-à-dire leur autonomie par rapport à la hiérarchie catholique. D'une certaine manière, la bulle d'excommunication montrait une situation de faiblesse au sein de l'Église catholique à l'époque, plutôt qu'une difficulté avec la franc-maçonnerie en soi. Ensuite, la franc-maçonnerie a fait l'objet de périodes qui pouvaient lui être socialement plus ou moins faste, notamment le Premier Empire est un moment très important, la Deuxième République est un moment aussi important, la Troisième République évidemment est un moment très important, mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, les francs-maçons se voient appliquer l'équivalent du statut des juifs et font l'objet d'une répression importante qui se fonde sur deux siècles de propagande catholique anti-maçonnique et qui a été renforcée par les mouvements d'extrême droite depuis le début de la Troisième République avec une accélération dans les années 20 et dans les années 30. Alors pourquoi cette contestation, cette critique et cette répression? Sans doute parce que à certains moments la franc-maçonnerie a affiché à tort ou à raison, et j'explique dans le livre que souvent il y a une légende, y compris maçonnique, sur l'importance de cette influence trop grande qui a nourri des discours complotistes, et puis parce que à cette époque-là déjà ce qui était discret était nécessairement suspect. Et dans l'ère du temps d'aujourd'hui, où c'est plutôt l'immédiateté et la transparence qui sont valorisées, il est fait que ce souci de discrétion est une invitation à bien des critiques et des élucubrations. Alors, peut-être c'est le lieu d'expliquer en quoi consiste cette discrétion. Le secret maçonnique, fondamentalement, c'est, de mon point de vue, le fait qu'il est très difficile d'expliquer, de faire comprendre, sans prêter à sourire à quelqu'un qui n'en a pas fait l'expérience, toute la force politique des rites auxquels nous sommes soumis lors de notre initiation ou lors ensuite des passages de grade. Expliquer cela à quelqu'un qui n'en a pas fait l'expérience et qui n'a pas de curiosité pour le sujet, c'est une expérience vaine ou nécessairement déceptive, parce que fondamentalement, l'interlocuteur ne retiendra que des éléments vaguement folkloriques, mais il ne comprendra pas la force d'émotion qui est la force d'émotion qu'on peut vivre, par exemple, quand on assiste à un très très grand moment de théâtre. Et donc le secret, c'est ça, fondamentalement, c'est l'incapacité à partager une expérience très particulière avec des personnes qui ne l'ont pas vécue. La discrétion, c'est autre chose. La discrétion, c'est que chacun est libre de dire ou de ne pas dire à ses entourages qu'il est maçon ou qu'il n'est pas maçon, c'est son problème. En revanche, ça ne se fait pas de dire qu'un tiers est franc-maçon ou pas. Mais c'est une règle de bonne courtoisie et de simple politesse, en fait. De la même façon que vous n'allez pas raconter les frasques extra-conjugales de vos amis à des tiers, il serait malvenu de communiquer sur cet élément de la vie très personnelle d'une personne à des personnes auxquelles elle n'a pas souhaité elle-même en parler. Voilà, c'est une question de respect vis-à-vis des autres membres de la franc-maçonnerie, et ça ne va pas au-delà. Et puis, troisième élément, cette discrétion dans les pays de culture latine, notamment qui ont fait l'objet de grandes répressions de la franc-maçonnerie pendant la Seconde Guerre mondiale ou sous des régimes fascistes, évidemment, la sensibilité à la discrétion est plus grande que dans des pays anglo-saxons qui n'ont pas eu ces difficultés-là. Et par exemple, quand vous allez aux États-Unis, l'affichage de la qualité de maçon se fait à peu près comme celle de membres du Rotary ou du Lions Club ou de bénévoles de la Croix-Rouge, y compris avec des mentions sur les cartes de visite. Mais ils n'ont pas la même histoire que nous. Ils n'ont pas la même histoire que nous. Donc, voilà, c'est aussi une notion qu'il faut relativiser. le secret maçonnique, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de révélation sans doute à attendre de la démarche, mais c'est seulement le fait que notre pratique des rituels fait que la partager avec quelqu'un qui ne l'a pas vécu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ensuite, il y a un devoir de discrétion vis-à-vis d'engagement de certains membres par rapport à des tiers, mais de mon point de vue, c'est une règle de courtoisie et de politesse et de respect. Et enfin, le rapport à la discrétion globale est très dépendant des sociétés et de la répression que les francs-maçons ont eu à connaître à certains moments. Alors, quand on passe une cérémonie d'initiation, quand on vit un rite, on s'engage à ne rien révéler du rite auquel on a participé, ce qui n'empêche pas la plupart des livres de franc-maçonnerie de tout expliquer dans le détail, hein, ce que fait pas le mien. Fondamentalement, lire un rituel, c'est-à-dire le texte qui explique le déroulé du rite, ça n'est pas de nature à donner une grande idée sur ce qu'est la réalité de ce rite quand il est pratiqué. C'est la différence qu'il y a entre lire le texte d'une pièce de théâtre et assister au spectacle lui-même. C'est-à-dire qu'il y a la part du spectacle vivant qui décuple toutes les vertus d'un texte littéraire, même de très très grande qualité. Donc ça n'a évidemment rien à voir. Ne pas relater le contenu précis des rituels à ceux qui ne les ont pas encore vécus, c'est aussi ménager leur effet de surprise et donc leur capacité à être ému par cette expérience particulière.
Jean-Pierre.
Alors, cher Eric, on ne choisit pas ses lecteurs. Pardon, excusez-moi.
Du deux.
C'est la fin de la journée, donc je suis fatigué. Mon cher Eric, on ne choisit pas ses lecteurs, évidemment, quand on publie en librairie ou ailleurs. Et pour moi, c'est une des difficultés ou une des réussites de cet ouvrage, c'est justement de. Il s'adresse à la fois aux francs-maçons, qui peut-être ça permet de les rassurer. Ou alors il s'adresse aux néophytes, aux profanes. Et est-ce que ce n'est pas une vraie difficulté d'écrire pour un public multiple, justement sur ce sujet particulier des rituels, etc. Je te remercie.
Oui, alors c'est un des éléments qui m'amusait en fait dans l'écriture du livre, c'est la réflexion sur les contraintes que je me fixais dès le départ. La première contrainte que je m'étais fixée, c'est d'essayer de ne rien révéler explicitement du contenu des rituels. Parce que je l'ai dit, lors des différentes cérémonies d'initiation, nous nous engageons à ne rien révéler. Et après, dans tous les livres maçonniques, on voit sans autorisation les éléments révélés. Donc je me dis, moi, je vais prendre au sérieux mes engagements. Donc je vais essayer de dire quelque chose. Donc je vais essayer de faire en sorte qu'il soit intéressant, sans rien révéler au fond du contenu des rituels. Donc ça, c'était le premier élément de contrainte. Et le deuxième élément, c'était que je trouvais que ça pouvait être un exercice de style particulièrement complexe, mais intéressant, d'écrire pour s'adresser à la fois à un public de maçons et à un public de profanes. Quand j'étais initié très jeune, j'étais encore étudiant, et à cette époque-là, je faisais un Master 2 à l'école aux études en sciences sociales, à l'École normale supérieure, et je devais rédiger un mémoire mineur sur les rites et rituels politiques. Et donc, j'ai eu pendant cette année-là à étudier tous les grands auteurs, anthropologues, ethnologues, sociologues, qui ont eu à travailler sur ces notions de rites de passage, de rites d'institution, de mythes, etc. Bon. Et j'étais frappé, en arrivant dans ma loge, par le fait que ces grandes références théoriques étaient assez peu utilisées, en fait. Et donc, dès le début de mon engagement maçonnique, je me dis, un jour, il y aura un truc à faire là-dessus. Et donc, bien des années plus tard, 27 ans plus tard, j'ai fait, et je trouvais intéressant d'essayer de décrire cette forme de sociabilisation qu'est la franc-maçonnerie en utilisant les grands concepts des sciences sociales et de la philosophie, mais de façon accessible vraiment à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un anthropologue dans l'âme ou un philosophe pour me lire. Parce que je trouvais que c'était un moyen de rendre le discours clairement intelligible pour un public profane. Souvent, les livres de franc-maçonnerie, même qui s'adressent à un public profane, utilisent beaucoup un vocabulaire symbolique qui n'aide pas à la compréhension du public profane et puis qui exonère parfois leurs auteurs de la définition des concepts clés. Donc je voulais faire cet effort-là. Et puis par ailleurs, je trouvais que pour un public de maçons expérimentés, le fait de leur expliquer leur activité avec des références qu'ils ne connaissaient pas toujours pouvait être un élément un peu déstabilisant qui pourrait les amuser. Voilà. Et donc j'ai essayé de faire les deux comme ça. Alors ça posait d'autres problèmes de construction aussi, c'est que pour que le discours soit clairement intelligible par un lecteur profane, il fallait avoir une vision chronologique, c'est-à-dire du moment où on est candidat à l'entrée dans une loge au moment où presque on devient grand maître, quoi. Et donc il fallait pouvoir avoir une construction qui soit un peu chronologique avec les différents grands concepts qui soient définis au fur et à mesure pour pouvoir permettre cette compréhension par tous. Mais il me semble que dans l'objet de la franc-maçonnerie, il y a, dit un rituel, le fait d'essayer de rassembler ce qui est épars. Et donc... moi, je suis assez sensible à la démarche qui consiste à devenir un discours, même entre nous, même sur les sujets les plus symboliques, qui ne perdent jamais de vue la perspective de pouvoir un jour s'adresser, y compris à des profanes dans les cadres les plus courants de notre vie de tous les jours.
Merci.
Et oui.
Il y a un certain nombre d'études scientifiques qui se résument à... Pourquoi les meilleures idées nous arrivent sous la douche? Ce sont des études scientifiques très sérieuses qui essayent de comprendre comment l'innovation apparaît dans le cerveau humain. Et je crois que la franc-maçonnerie applique tout à fait ça grâce aux rituels. Et je fais le lien avec les rituels. Parce que pendant que les rituels sont amenés, celui qui est sur les colonnes, il rêve, et il est choqué par toute une série de mots, de slogans, de formules, d'idées qui font jaillir en lui un certain nombre d'idées. Donc le fait de rêvasser pendant qu'il y a des rituels, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait efficace pour la créativité et pour l'innovation. Voilà. À vous d'en faire ce que vous voulez.
je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Il y a aussi un temps pour la rêverie en loge, notamment pendant ces cérémonies, un temps pour l'émotion, la rêverie, les associations d'idées. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'assiduité est une demande forte que nous formulons à ceux qui veulent nous rejoindre, parce que pour pouvoir faire des associations d'idées, il faut comprendre pourquoi un tel parle de ça à telle réunion, quel écho ça a avec ce qui a été dit sur tel autre sujet à telle réunion précédente, etc. Et donc, d'une certaine manière, plus on est présent, plus on peut faire des connexions de ce type, et donc plus on se donne la chance d'être stimulé par la rêverie. L'autre aspect des rituels est leur spécificité par rapport à ce qui se passe dans d'autres cadres, notamment religieux, c'est que En franc-maçonnerie, on demande très très vite, et même dès la deuxième réunion, à ceux qui nous ont rejoints de nous donner leur propre interprétation de ce qu'ils ont vécu. Et donc, ce n'est pas comme dans la plupart des religions, l'autorité qui dit comment il faut interpréter les choses, mais c'est chacun qui exprime sa perception, son ressenti. Alors ça ne veut pas dire que toutes les affirmations soient d'égale valeur et que toutes soient valables, et donc il y a un travail d'accompagnement et de reformulation à faire aussi pour permettre à chacun d'introduire un peu de rigueur ou de complexité dans ses représentations. Mais au-delà de l'aspect de la rêverie, le fait que chacun soit amené assez vite à libérer sa parole pour donner son ressenti et son interprétation des choses, il me semble que ce sont deux éléments de grande richesse et potentiellement de créativité pour ceux qui nous rejoignent.
Christian, et après vous, d'accord.
Tu as utilisé la comparaison de la pièce de théâtre en disant il y a d'une part le fait de lire, hein, la posture où on est, où on lit la pièce de théâtre, et puis il y a d'autre part assister à la pièce de théâtre. Mais je pense qu'il y a une troisième possibilité, c'est celle de jouer dans la pièce de théâtre.
Oui, oui.
Donc, question, dans une tenue, y a-t-il des acteurs et des spectateurs? Sont-ils interchangeables? Qui fait quoi?
Alors, c'est une excellente question et ça m'amène à corriger mon propos, c'est très bien. Effectivement, moi je pense que la comparaison avec le théâtre est intéressante. Elle est intéressante de plein de points de vue. D'abord sur l'idéal général, qui est, je crois beaucoup à la formule d'Antoine Vitesse qui disait que le théâtre doit être élitaire pour tous. Et je pense que c'est aussi l'objectif de la formation, c'est-à-dire non pas être élitiste, hein, il ne s'agit pas d'être à quelques-uns ultra pointus sur nos sujets, très fiers de nous, et d'exclure le tout venant de la capacité de participer à ces travaux. Il s'agit de s'adresser au plus grand nombre possible et de permettre à ceux qui nous rejoignent, à la fin de chacune de nos réunions, si possible, de se sentir un petit peu moins con qu'au début. Et être élitaire pour tous, c'est ça. Et je trouve que c'est un objectif qui est formidable. D'ailleurs, la franc-maçonnerie, quand ça fonctionne, et cela permet à des gens qui ne sont pas nécessairement des diplômés de l'enseignement supérieur, mais qui ont des profils autodidactes, de prendre des responsabilités, d'acquérir des vraies expertises sur le fond, et d'avoir une capacité à s'exprimer, alors que dans les autres segments de leur vie sociale, quelquefois, la prise de parole leur est interdite. Et je pense que c'est un élément très positif de notre mode de fonctionnement, quand il marche bien. Effectivement, le but, ce n'est pas simplement de lire le texte d'une pièce ou d'un rituel. Le but, ce n'est pas simplement d'être un spectateur passif de la pièce qui se joue. Chacun, dans une de nos réunions formelles, est amené à un moment ou à un autre à être un des acteurs de ce qui se joue. Et c'est dans sa participation active à ce qui se joue que... Il se passe quelque chose de particulièrement fort et qui est de nature à avoir un effet sur le développement personnel de chacun de nos membres. Dans le livre, je fais aussi une référence au théâtre de Bertolt Brecht avec ce qu'il appelle l'effet de distanciation, ce que François-Xavier appellerait le Verfremdungseffekt. Dans le théâtre brechtien, en fait... Les acteurs jouent une scène, mais ils expliquent aux spectateurs qu'ils sont vraiment en train de jouer une scène et que ça n'est pas la réalité. Et les éléments de la mise en scène sont, entre chacune des scènes, en chacun des actes, les éléments de décor, sont changés en présence des uns et des autres pour bien montrer que ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité ou c'est une autre forme de réalité et que ce qui se joue là doit amener à avoir un regard critique distancié sur ce qu'on appelle la réalité le reste du temps. Et de ce point de vue-là aussi, il me semble que la comparaison avec le théâtre est intéressante. Dans le fonctionnement de nos loges, notamment dans la réalisation de nos rites, il y a quelque chose qui relève de cet effet de distanciation de Bertolt Brecht aussi.
À vous, madame.
C'était juste une petite... Pour rebondir sur ce qu'a dit monsieur, tout simplement, alors le mot, comme vous avez dit tout à l'heure, anon, enfin, alors ce mot me gêne un peu parce que je trouve qu'il y a quand même, dans les tenues, enfin, on anonne pas justement. Ce rituel entraîne le côté solennel, le côté. Parce qu'il ne faudrait pas décourager certains profanes. On est voilà à mener, à s'endormir sur nos chaises. De mon point de vue, donc je trouve très très important de dire que ça entraîne justement ce côté solennel, ce côté. Voilà, et quand on parle de théâtre, on parle aussi de danse. Moi qui fais de la danse, j'avais fait d'ailleurs quelque chose là-dessus en rapprochant. En disant effectivement aux frères et sœurs, ben, vous êtes tous des danseurs, parce qu'il y a quand même justement dans ce rituel plein de choses qui ressemblent à ça. Voilà.
Merci, madame.
Alors, le frère Christophe Abbas, qui était un grand scientifique, un grand médecin, un grand érudit, quelqu'un de très sérieux, quand je l'ai connu, trois soirs par semaine, jusqu'à 2h du matin, parce qu'il ne faisait rien dans sa vie à moitié, il dansait du tango.
Patrice.
Je voudrais revenir sur le petit côté de l'évocation de la poésie, je dirais même moi, de la magie, d'une tenue, dans ce que l'on peut vivre dans une tenue maçonnique. Hein. Et si on regarde bien ici, on est bien entre quatre murs. Pour autant, vous n'êtes pas dans un lieu qui, à ce moment, donc, vit une tenue maçonnique. Nous sommes dans une réunion entre nous. Et les imaginales maçonniques et ésotériques, je trouve, représentent bien ce que tu as voulu montrer dans ton livre, c'est-à-dire qu'ici sont réunis des profanes, des maçons, qui viennent découvrir des sujets qui peuvent avoir un lien direct avec la franc-maçonnerie, mais également d'autres liens. Donc c'est un petit peu cette expérience universelle de ce que tout être humain peut vivre. J'ajouterai à la poésie, la musique. Vous avez ici donc tout un ensemble technique, mais qui permet, pendant une tenue, justement, de faire vivre la musique. Et comme un vrai rituel, comme il y a le rituel parlé, il y a le rituel musical qui accompagne les travaux des francs-maçons. Et puis, il y a quelque chose d'exceptionnel qui amène à la rêverie, qui amène à l'évocation poétique. C'est que lorsque vous êtes dans une réunion quelque part, si vous levez les yeux, vous avez un plafond. Levez les yeux, vous avez ici une voûte étoilée. Vous êtes ouvert sur le monde, en communication avec tous les autres francs-maçons du monde, et pour aujourd'hui, avec tous les êtres du monde.
En fait, nous sommes obligés à une forme d'excellence. Parce que nos rituels, si nous les adonnions ou si nous les appliquions mais mécaniquement, sans générosité, sans travail, sans effort, sans préparation, risqueraient bien vite d'apparaître comme ridicules aux yeux de tout le monde, y compris et surtout aux yeux de ceux qui nous rejoignent. Pour qu'ils aient une force de provocation d'émotion qui invite après ceux qui en ont été les acteurs à connaître un changement d'état, tout au moins un changement d'état d'esprit, il faut que ces cérémonies soient particulièrement réussies. Alors ça nécessite tout un tas de choses, une bonne connaissance du texte des rituels par ceux qui sont les acteurs de cette mise en scène, parfois des répétitions pour les rituels les plus complexes, des interventions orales de ceux qui doivent dire des mots d'accueil ou des mots d'explication qui soient bien travaillés, des choix musicaux qui soient bien réalisés et qui soient passés au bon moment, des mouvements qui sont décrits dans l'enceinte dans laquelle nous nous réunissons qui soient faits avec assurance, l'absence de tout temps mort et de période de flottement où plus personne ne sait ce qu'il a à faire, etc. Et donc, pour que ça marche, notre méthode, il faut qu'on soit très bon. Et je trouve que c'est assez moral, en fait, comme mode de fonctionnement, de se dire que pour que notre méthode marche, ça nous oblige vraiment d'être bon. Et c'est une invitation à l'effort. Alors ça, dans le monde profane, c'est peut-être une notion qui apparaît aujourd'hui comme très désuète, l'effort. Mais c'est quelque chose que nous valorisons. Mais d'une certaine manière, nous y sommes obligés pour que notre démarche conserve sa capacité effectivement poétique, c'est-à-dire étymologiquement sa capacité créatrice.
Il nous reste 3 minutes. Donc, dernière question.
On peut dépasser encore de 3 minutes, est-ce que tu veux
François. Ah oui, Fabrice. Excuse.
Merci.
À toi pour les 3 dernières minutes.
Je ne prendrai pas beaucoup de temps, en tous les cas avec beaucoup d'humilité, puisque c'est plutôt mon genre. Voilà, tu as souvent évoqué le mot rituel, et pourtant la question portait de l'utilité des rites maçonniques, parce qu'on a l'impression que c'est une grande maison qui fonctionne partout pareil, ce qui est totalement faux. Et donc j'aurais aimé que, si tu pouvais nous en dire quelques mots, de cette véracité, en tous les cas de l'utilité des rites.
Merci. Alors, j'établis une distinction entre rite et rituel. Pour moi, le rite, c'est, et je vais complexifier les choses, le rite, c'est des mises en scène avec une série de paroles qui sont prononcées, d'actes qui sont réalisés, d'objets qui sont mobilisés, et qui visent à créer une différence entre un avant et un après. Alors, il y a une formule de Bourdieu sur les rites de passage comme rites d'institution qui vise à faire méconnaître comme arbitraire et reconnaître comme légitime des frontières arbitraires. Ça, c'est le langage de Bourdieu. Et les rituels, ce sont les textes qui retranscrivent effectivement ces rites. Alors, il y a plusieurs rites, effectivement. Alors, c'est des notions qui sont quand même très, très abstraites pour... Des personnes qui n'ont pas encore rejoint la franc-maçonnerie, mais l'unité de base de la sociabilité dans le monde de la franc-maçonnerie s'appelle une loge. Voilà. Une loge, c'est une association. Et cette association est les membres d'un ensemble national ou international qui a elle-même une forme associative qu'on pourrait, pour que ce soit bien clair dans l'esprit de tout le monde, qualifier de fédération et impropre. Alors vous avez, et ces fédérations, c'est ce qu'on appelle des obédiences. Et vous avez des obédiences qui se fondent sur l'exercice d'un rite, et vous en avez d'autres qui permettent à chaque loge de choisir précisément le rite auquel elle veut travailler et la référence du rituel de ce rite auquel elle veut travailler. Alors, les rites sont de nature différente. Ils sont fondés sur des éléments de différenciation selon les époques auxquelles ils ont été écrits. Vous imaginez bien que des rituels qui sont plus anciens auront sans doute une tradition plus déiste que des rituels écrits dans les années 1920. Et ensuite, c'est très compliqué à expliquer ça effectivement à un public profane. La façon dont sont organisés les travaux, les formules qui sont prononcées, l'ordre dans lequel elles sont prononcées, varient effectivement selon le rite qui est choisi. Et le grand intérêt qu'il y a à devenir franc-maçon, c'est qu'en fait, finalement, on ne devient pas simplement membre d'une loge, mais on devient membre d'un club international qui vous permet, si vous le souhaitez, de pouvoir aller voir ce qui se passe dans un très grand nombre de loges de France ou d'autres obédiences, de votre obédience ou d'autres obédiences, mais même aussi à l'étranger. Et le regard porté sur les rites est particulièrement enrichi du fait d'avoir pu se confronter à l'exercice d'autres rites que celui qu'on pratique à chacune des réunions dans la loge dans laquelle on travaille. Et donc, c'est aussi un élément de grande différenciation par rapport à une organisation religieuse, puisque... Si vous êtes membre de telle religion, généralement vous inscrivez dans l'exercice d'un rite, et même si vous allez dans d'autres paroisses que la vôtre, ce sera souvent le même rite. L'avantage de la franc-maçonnerie, c'est d'avoir sur des schémas fondamentaux qui sont toujours très très ressemblants, avec les mêmes éléments structurants, la capacité d'avoir des variations dans les formulations, ou même dans les mises en scène, qui sont de nature à introduire un peu de complexité dans vos représentations et à vous interroger autrement sur le sens du rite qui vous est proposé dans la loge dans laquelle vous travaillez. Donc effectivement, c'est un élément de richesse particulier pour qui s'intéresse à ces questions, en effet.
Merci. 5 minutes. 6 minutes.
pouvez poursuivre la discussion avec Eric dans la salle du rez-de-chaussée, où il dédicace ce livre franc-maçon et ces deux autres livres que nous avons évoqués. Pour conclure, je voudrais également remercier les imaginales maçonniques et ésotériques qui permettent depuis 10 ans ce dialogue entre profanes et initiés. Et aujourd'hui, très, très franchement, Eric nous a permis de comprendre et de recevoir l'histoire d'un rêve maçonnique. Alors, au nom de Jacques Orifice et de Patrice Lund, c'est pour moi un très grand honneur de faire ça, de faire cela envers Eric. Donc, au nom de Jacques Orifice et Patrice Lund, coprésidents des imaginales maçonniques ésotériques, du secrétaire Jean-Pierre Bégel et de tous les membres actifs des imaginales maçonniques, Eric, je te remets ce diplôme de membre d'honneur.
Merci beaucoup. La deuxième fois que j'ai une distinction à Épinal. La première fois, c'était le fait de pouvoir, en hussard, défiler sur le char de Saint-Nicolas.